Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve le général Forget.
Canal Académie a le plaisir aujourd'hui de recevoir le colonel Michel Goya, qui est le lauréat 2009 du prix Edmond Fréville Pierre Messmer, prix de l'Académie des sciences morales et politiques, et ce pour son livre intitulé « Irak, les armées du chaos », livre paru en avril dernier aux éditions Economica. Alors, mon colonel, vous êtes officier des troupes de marine, breveté du Collège interarmées de défense, docteur en histoire, et vous avez participé, bien sûr, à plusieurs opérations extérieures, notamment en Afrique, vous m'avez dit au Rwanda, en République centrafricaine, et également dans les Balkans, et notamment à Sarajevo, où vous êtes allé, je crois, plusieurs fois, au moins deux.
Deux fois, exactement.
Deux fois, exactement. Vous avez passé ensuite trois années au Centre de doctrine d'emploi des forces de l'armée de terre, où là, vous vous êtes livré à l'étude des conflits du Moyen-Orient. C'est un très vaste sujet. Et l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui, vous l'avez réalisé lorsque vous étiez affecté au cabinet du chef d'état-major des armées en tant que rédacteur en charge des affaires doctrinales. Vous êtes affecté aujourd'hui à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, situé à l'école militaire, un institut interarmée tout récent qui a été inauguré en effet en octobre dernier par le ministre de la Défense. Et là, vous assumez les fonctions de directeur de recherche dans le domaine des nouveaux conflits, encore un vaste sujet. Votre livre « Irak, les armées du chaos » est un livre tout à fait remarquable par l'analyse très complète à laquelle vous vous êtes livré, analyse des différents aspects des crises sévères et inattendues auxquelles les Américains ont dû faire face au lendemain de la prise de Bagdad. Les lourdes erreurs initiales commises par les Américains, persuadés qu'ils allaient être reçus en libérateurs par la population, ces erreurs-là, elles sont connues. Ce qui l'est moins, c'est la façon dont les forces de la coalition, et notamment américaines, ont dû adapter leur doctrine, leur tactique, leurs moyens à la réalité de situations complexes, variables d'une région à l'autre et d'une année à l'autre, situations de guérilla, de guerre contre-insurrectionnelle et même situations de guerre civile. Et c'est tout cela que vous avez traité, je veux dire, admirablement dans votre livre, pour un sujet extrêmement compliqué. Alors, ma première question concerne les erreurs initiales des Américains. Dans votre livre, vous dites, à juste titre, que le fait d'avoir brutalement démobilisé l'armée de Saddam Hussein a jeté ainsi dans la rue des milliers d'hommes qui sont devenus, bien sûr, des recrues toutes trouvées pour les mouvements insurrectionnels. Et ce fait est présenté comme la faute majeure commise par les Américains. Mais d'un autre côté, quand on constate, en lisant votre livre, la fragilité que l'État irakien a révélée, conséquence de la mosaïque toujours prête à exploser de tribus, de régions et de peuples, on peut se demander, est-ce que le chaos était vraiment évitable ?
Le cœur du problème est certainement une sous-estimation de la complexité de cette société irakienne par l'occupant américain. En éliminant le régime de Saddam Hussein, les Américains ont finalement retiré la clé de voûte d'un système très complexe de pouvoir et de contre-pouvoir, à la fois très autoritaire, quasiment totalitaire par de nombreux aspects, mais aussi très féodal par d'autres aspects. Et en éliminant Saddam Hussein, qui au début de ce conflit est toujours en fuite, je le rappelle, on se fait s'écrouler cette société, tout ce système très complexe. Et effectivement, en arrivant sur place, les diplomates américains l'autorité provisoire de la coalition, menée par l'ambassadeur Paul Bremer, contribuent encore à cette dissolution de la société en supprimant d'un trait de plume les derniers organes, instruments régaliens de sécurité, donc l'armée, mais aussi la police.
Est-ce qu'il n'y a pas eu non plus je dirais, dans la direction de cette affaire, après, bien sûr, une fois arrivé à Bagdad, l'absence d'une véritable direction politico-militaire, parce que Paul Bremer, qui était un diplomate, si je ne me trompe, était à Bagdad, lui, et il avait le titre d'autorité provisoire de la coalition, Et le commandant de l'opération, si je ne me trompe pas, il était à Tampa, en Floride. C'est quand même pas un modèle d'organisation civile ou militaire dans une situation qui, à mon avis, aurait mérité de l'être.
Effectivement. Alors là, on retrouve aussi un des traits de la culture militaire américaine. Bon, tout le monde connaît le mot de Clausewitz, la guerre politique, continuation de la politique par d'autres moyens. Les Américains le prennent souvent au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il y a le temps de la guerre, auquel cas les militaires ont le premier plan, et puis le temps de la politique, une fois que les affaires militaires sont terminées. Donc après la chute de Bagdad en avril 2003, pour beaucoup de militaires, le travail est terminé, le job est fini, et puis il ne reste plus qu'à préparer le retour au pays. Et donc la clé de la situation est donnée aux diplomates pour organiser la reconstruction de la société irakienne et la construction de ce nouvel Irak. Donc il y a une séparation très nette dans le temps, il y a une séparation très nette des fonctions, et puis petit à petit, une séparation très nette aussi sur le terrain, où on s'aperçoit que la plupart de ces diplomates de l'autorité provisoire, finalement, en viennent, pour la mesure de sécurité, à vivre dans la zone verte au cœur de Bagdad, alors que les militaires sont sur le terrain. Et très vite apparaît une contradiction entre deux besoins, le besoin de sécurité et puis le besoin économique de la reconstruction. Le besoin de sécurité assuré par les militaires, le besoin de reconstruction assuré normalement par l'autorité provisoire de la coalition, avec d'un côté des diplomates de cette autorité provisoire qui disent aux militaires, assurez la sécurité et puis nous ferons le reste. Et puis de l'autre côté, très rapidement, des militaires qui disent, mais non, c'est cette reconstruction qui nous donnera les moyens de la sécurité. Cette ambiguïté va perdurer très longtemps.
Mais quand on parle de ces événements qui sont produits à partir de mai 2003, c'est-à-dire une fois que la coalition a conquis, si je puis dire, l'Irak, en fait, il ne s'agit pas des Américains seulement, mais c'est une coalition. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler, ce que vous faites très bien dans votre livre, quelles étaient les composantes de cette coalition, et nous parler en particulier, vous le faites dans votre livre, mais je me permets de revenir là-dessus, sur le rôle des Britanniques. Parce que les Britanniques, comme vous l'expliquez dans votre livre, eh bien, ce sont des militaires qui ont un professionnalisme certain dans ce genre de guerre. Ils ont une expérience sérieuse. Eux aussi, quand je dis aussi, je pense bien sûr aux Français, en sens qu'ils ont une expérience en Malaisie dans les années 48-56, et puis beaucoup plus récemment en Irlande du Nord. En plus, vous nous racontez que lorsqu'ils sont arrivés, notamment dans la région de Bassora, ils ont été bien reçus. Et malgré cela, malgré l'attitude qu'ils ont eue, qui était une attitude très... Il y avait beaucoup de doigté dans leur façon de faire. Eh bien, malgré ça, en 2004, c'était la révolte chiite. Et puis finalement, on a constaté une mise à l'écart progressive des Britanniques dans cette affaire irakienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces deux points? La composante, la coalition, et puis l'affaire des Britanniques.
Alors, la coalition va comprendre au total entre 30, suivant les moments, entre 30 et 35 pays différents. C'est une coalition très asymétrique. C'est-à-dire qu'au plus fort des effectifs de la coalition, c'est-à-dire 180 000 soldats, vous en avez entre 140 et 160 000 qui sont américains, et puis une vingtaine de milliers qui viennent de
vous parlez soldats, hein ?
Soldats, oui, tout à fait.
Militaires, oui.
Ensuite, sur le terrain, vous avez trois zones. Vous avez le Kurdistan, qui est très autonome, sinon indépendant de fait déjà depuis 1992, qui est une zone calme, car les deux parties au pouvoir, qui se partagent le pouvoir ont leur propre armée et assurent la sécurité dans tout le Kurdistan. Donc cela ne pose pas de problème à la coalition, ça n'en posera jamais, vraiment. Vous avez toute la zone sud qui est dominée, enfin qui est la zone chiite, la majorité de la population, qui est également une zone calme au début de ce conflit, car les chiites trouvent tout leur intérêt dans l'évolution vers le nouvel Irak, que mécaniquement, démographiquement, ils sont amenés à dominer.
Pour eux, c'était une libération.
Tout à fait, non. Ils sont particulièrement heureux d'être débarrassés du régime baasiste. Et puis, entre les deux, vous avez les provinces sunnites, qui sont les provinces rebelles à la présence de la coalition, et qui sont tenues par les divisions américaines. Donc dans ce sud chiite, les forces de la coalition sont organisées en deux grandes divisions, une au centre dirigée par les Polonais et une au sud-est dirigée par les Britanniques, avec un fort contingent britannique qui, après la chute de Bagdad, va s'élever à 8000 hommes, puis va descendre...
Combien, pardon ?
8000 hommes.
8000 hommes.
Et va décroître progressivement pour, à partir de 2005, être aux alentours de 5000, puis 4000 hommes, jusqu'à leur départ récent.
Alors, comment expliquer ce retournement de la situation ?
Effectivement, vous l'avez souligné, l'armée britannique est, avec l'armée française, c'est celle qui a finalement le plus d'expérience.
C'est vous qui l'écrivez aussi.
Oui. Qui a le plus d'expérience en matière de guerre, de contre-rébellion, de contre-guérilla, d'opérations de stabilisation au sens très large. Mais ce conflit est d'abord le premier conflit de contre-rébellion dans lequel les Britanniques ne sont pas les leaders. Ils sont, par la taille de leur... par le volume de force, la taille de leur participation, à la fois économique d'ailleurs et militaire, ils sont de facto obligés de suivre la stratégie américaine. Au point de vue tactique, c'est-à-dire sur le terrain, effectivement, ça se passe plutôt bien. Les Britanniques savent bien faire les choses, savent parfaitement passer du rire aux armes, passer du contact avec la population, de sympathique.
Oui, vous décrivez qu'ils arrivaient décontractés, ils n'ont pas des lunettes de soleil,
une posture la moins agressive possible vis-à-vis de la population, contrairement aux Américains qui ont un peu de mal à se débarrasser de certains réflexes. Mais très rapidement, on s'aperçoit que, d'une part, ils n'ont pas la masse critique en effectif, tout simplement, pour contrôler véritablement leur zone. La seule ville de Bassora, c'est une ville géante de plusieurs millions d'habitants, de 3 millions d'habitants. Donc un contingent de 4000 hommes, c'est très insuffisant pour contrôler une ville de ce type. Et là, on touche du doigt, d'ailleurs, peut-être un des problèmes des petites armées professionnelles occidentales modernes.
Alors, le mouvement chiite a été provoqué par qui, la rébellion chiite ?
À l'intérieur de la zone chiite, vous avez deux grandes tendances. Vous avez une première tendance qui est avec les deux grands partis chiites traditionnels qui ont pendant des années été hébergés en Iran. Donc c'est l'Assemblée suprême de la révolution islamique en Irak et le parti Dawa. Et puis vous avez un petit parti nationaliste qui a commencé à se mettre en place avec l'arrivée de la coalition qui est l'armée du Mahdi, dirigé par le très jeune Ayatollah. Son titre d'ayatollah est très, très exagéré, mais d'ayatollah Moqtada al-Sadr, qui lui va effectivement développer un mouvement d'opposition chiite, donc très différent des mouvements d'opposition sunnites qui vont se
Donc c'est lui qui est à l'origine de la...
Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'en avril...
Et les Britanniques n'ont pas pu faire face à cette situation compte tenu des raisons que nous
avons révolte, exposées. La révolte chiite date d'avril 2004. C'est au départ parce que les Américains, l'élément déclencheur sont les Américains qui veulent arrêter Moqtada al-Sadr. Moqtada al-Sadr sentant venir le danger, déclenche lui-même l'insurrection, donc il déclenche un mouvement de révolte dans la ville, dans le quartier, son fief à Bagdad de Sadr City, très peuplé, et puis dans tout le sud. Et là, effectivement, les Britanniques arriveront à rétablir assez rapidement finalement la situation dans leur zone, mais beaucoup d'autres contingents vont être complètement dépassés par les événements, incontestablement.
Je reviens maintenant, si vous voulez bien, aux Américains, parce que à la lecture de votre livre, on est quand même frappé de constater que par-delà les erreurs initiales qui sont connues, je ne reviens pas dessus, bien des unités américaines se sont vite rendues compte de la réalité de la situation et ont entrepris de sérieux efforts pour adapter leur méthode à cette réalité. Vous citez en particulier l'action intelligente dès 2003 de la 101e division commandée par un général célèbre, qui est le général Petraeus, engagé dans le secteur de Mossoul. Dès la fin de 2003, vous dites, ça y est, le renseignement, il a pris toute la place qui lui revenait dans ce genre de guerre, alors qu'au début, ce n'était pas le cas. Et surtout, au fur et à mesure des relèves qui étaient tous les 6 mois ou tous les ans au fur et à mesure des relèves, il ressort de votre livre que les unités américaines qui viennent des États-Unis sont de mieux en mieux instruites et préparées aux formes d'action spécifiques qui les attendent. Vous citez même une unité qui, en 2003, s'était singularisée par la brutalité de son comportement et allait, 3 ans plus tard, se révéler parfaitement adaptée à la lutte contre-insurrectionnelle dans laquelle cette unité était engagée, une lutte où, on le sait bien, l'enjeu, c'est la population. Alors, ceci montre tout de même, je demande de le confirmer ou de l'infirmer, que finalement l'armée américaine a quand même des capacités d'adaptation qui peuvent être jugées lentes, mais compte tenu de la situation très complexe dans laquelle ils se sont mises, de ce côté-là, on peut dire que c'est quand même pas mal d'avoir réussi cette transformation, cette évolution des méthodes.
Oui, exactement. Mais c'est comme disait Churchill, les Américains finalement trouvent les bonnes solutions après avoir essayé toutes les mauvaises. Et il y a dans cette présence américaine, il y a tout un mouvement de très volontariste, d'innovation qui est mené dès le départ. C'est-à-dire que les unités qui sont sur place ont des missions à remplir, ont des défis à relever, des problèmes à résoudre et donc elles sont obligées d'innover. Alors ça se fait au début un peu avec une certaine incohérence, c'est-à-dire que vous avez souligné effectivement l'action de la 101e division d'assaut aérien sur la région frontière Mossoul. À Mossoul, entre le Kurdistan et les provinces sunnites.
Qui n'était pas la plus difficile sans doute. Hein.
C'est une région très complexe.
Très
complexe ethniquement. Vous avez des problèmes pétroliers, des problèmes de Kirkouk. Mossoul, c'est une ville aussi de 2 millions d'habitants, très complexe. Et ça fonctionne parce que le général Petraeus mène effectivement d'emblée une politique de pacification où la priorité n'est pas forcément la recherche, la traque des rebelles, mais la remise en place d'une société viable, d'un tissu économique, d'une gouvernance politique. Et en dernier ressort, des opérations de sécurité menées en touchant le moins possible la population, donc menées avec des renseignements les plus précis possibles, qui eux-mêmes d'ailleurs viennent de la population. Et puis vous avez d'autres unités qui se comportent de manière beaucoup plus brutale, cherchant un résultat rapide, se concentrant sur la destruction des bandes rebelles et s'apercevant assez rapidement qu'ils sont extrêmement maladroits et qu'ils ne font qu'alimenter la guérilla au lieu de la calmer. Et puis petit à petit, effectivement, relève après relève, le comportement évolue dans le bon sens. Les bonnes leçons sont prises. Il y a une diffusion de l'information qui est tout à fait remarquable, une liberté d'expression qui est également tout à fait remarquable et qui permet effectivement de déceler, de mettre en avant ce qui a fonctionné, les défauts.
Est-ce que ça s'est passé en Irak même ou aux États-Unis? Un peu des deux, je suppose.
Il y a les deux, oui, les deux processus sont parallèles.
Il y a eu un phénomène de compte-rendu, de leçons tirées de l'expérience, de retour d'expérience.
Oui, incontestablement, bien sûr. Il y a eu une analyse extrêmement précise, très professionnelle, tout simplement des choses qui ont permis d'évoluer. Et vous citez le cas du 3e régiment de cavalerie, donc de plusieurs milliers d'hommes, qui arrivent en 2005. Et là, cette unité n'est plus du tout la même que celle qui a combattu en 2003. Mais ce qui est intéressant, c'est que les innovations ne sont pas des innovations techniques, dans l'immense majorité des cas, mais ce sont des innovations plutôt culturelles. C'est-à-dire qu'il a fallu apprendre aux gens à modifier leur comportement, à maîtriser leur feu, à s'intéresser à la culture dans laquelle ils sont insérés, à obliger un certain nombre d'entre eux à apprendre la langue du pays, à être patients. Et tout ça, effectivement, doit donner des résultats.
C'est très intéressant de le dire, et d'ailleurs de le lire dans votre livre, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Il y a un autre phénomène, le président Bush, bien sûr, on ne peut pas dire qu'il se tire de cette affaire avec beaucoup de gloire. Cependant, à son actif, il y a quand même eu, en janvier 2007, ce que les Américains ont appelé le surge, c'est-à-dire le sursaut, alors que tout le monde autour du président Bush préconisait un retrait carrément de l'Irak compte tenu d'une situation qui allait en se dégradant. Lui a fait le contraire, il a décidé d'envoyer 30 000 hommes supplémentaires. Et ce surge, finalement, ce que vous pouvez nous le rappeler, il a eu quand même une influence très positive.
Oui, oui, oui. Alors, je rappelle aussi que ce surge a été très cette décision a été très critiquée à l'époque par l'opposition démocrate. Il faut rappeler aussi qu'en fin 2006, la situation est terrible en Irak. Nous sommes dans une situation de guerre civile. Il y a plusieurs milliers de morts par mois à Bagdad. On est au bord du chaos. Et beaucoup d'experts américains recommandent un retrait. Le sénateur Barack Obama, à l'époque, est pour un retrait immédiat des forces américaines. Et président Bush, finalement, écoute les militaires qui disent bon, la situation est trop grave pour partir maintenant, ce serait une véritable catastrophe. Donc commençons par rétablir la situation, puis après on pourra envisager un retrait.
Et ça s'est traduit par ?
Alors ça s'est traduit par un surcroît momentané de force de 30 000 hommes, qui finalement a permis, dans un premier temps, d'obtenir une masse critique pour la ville de Bagdad, c'est-à-dire que vous avez... Pour sauver Bagdad, qui est le poumon du pays, qui est le cœur du pays, 6 millions d'habitants. Et donc ça a permis, en engageant 10 brigades américaines, c'est-à-dire près de plus de 30 000 hommes américains, plus 80 000 soldats irakiens, plus des milices sunnites dont je vais parler, a fini par avoir la masse critique suffisante pour obtenir des résultats. Mais surtout, l'effet principal du surge, de ce renfort momentané, ça a été un signal très fort pour les sunnites.
C'était le rapprochement avec les sunnites.
Voilà, c'est ouais. le tournant, c'est ça. Les deux hommes importants de cette affaire sont le général Petraeus, donc il va commander les forces en Irak, mais également un Irakien, le cheikh Abu Risha, qui est un des grands leaders sunnites, qui va choisir l'alliance américaine.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir un plan de retrait des forces américaines se dessiner, le statut des forces américaines qui est changé, et que, d'ailleurs que c'est en cours actuellement.
Oui. Alors, pour terminer d'un mot sur tout le processus du surge, c'est-à-dire que la plupart des mouvements nationalistes, finalement, ont préféré l'alliance américaine à l'alliance avec le djihad et avec Al-Qaïda en Irak, ce qui est quand même intéressant. C'est-à-dire que toute cette évolution dont on parlait tout à l'heure du comportement militaire américain a fait d'eux des adversaires finalement respectables, plus respectables que ces djihadistes, ces fous qui organisaient une multitude d'attentats et qui assassinaient tout un certain nombre de dignitaires sunnites. Donc il y a un retournement des sunnites, création d'une armée sunnite qu'on appelle la milice du réveil, qui coopère avec les Américains, qui leur permet d'avoir cette connaissance, cette imprégnation dans le milieu qui leur permet d'être beaucoup plus efficace. L'armée du Mahdi qui décide d'une trêve, qui, voyant effectivement ce retournement de situation, ordonne une trêve. Donc vous avez un deuxième adversaire qui se parie, permet de concentrer les moyens, tous les efforts sur les djihadistes, Al-Qaïda en Irak en particulier. Et permet aussi, très rapidement, de reconstituer plus facilement l'armée irakienne et de transférer la responsabilité de la sécurité au gouvernement irakien. Et à partir de là, sur ces bases-là, ce qu'on appelle le SOFA, donc c'est le statut de la force dans le pays, est renégocié. Et c'est à partir de ce moment-là que, sur ces bases, on peut envisager un retrait progressif des forces américaines.
J'aurais posé quelques questions sur les moyens. Ce qui concerne les forces, d'abord, elles ont été considérées par les Américains dès le départ comme pas assez nombreuses, d'où le recours, ce qu'on appelle l'externalisation, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, et notamment par le recours des sociétés militaires privées. Et vous citez un chiffre qui est effarant, ces sociétés militaires privées ont été jusqu'à regrouper 160 000 hommes, c'est-à-dire plus pratiquement que les forces de la coalition. Est-ce qu'on ne touche pas du doigt là tout de même les limites de l'externalisation ?
Oui, alors, sur ces 160 000 hommes, vous en avez la moitié qui sont des Irakiens, 160 000 hommes qui travaillent pour le département de la défense américain, au profit des forces américaines. Donc moitié d'Irakiens, et parmi la moitié restante, moitié d'Américains et moitié de gens...
La moitié sont des Irakiens.
Oui. Et beaucoup de ces sociétés sont là pour assurer des fonctions logistiques, et quelques-unes pour assurer des fonctions de sécurité.
Est-ce qu'elles ont été à l'origine de dérapages regrettables ?
Oui, bien sûr. Alors, le problème de ces sociétés, c'est qu'il y a au moins deux grands problèmes. Le premier, c'est qu'elles sont dans une logique de contrat privé. C'est-à-dire, pour prendre un exemple tout à fait concret, des gardes du corps de la société désormais célèbre Blackwater, qui ont à escorter une personnalité d'un point A à un point B, leur mission, c'est que cette personnalité arrive au point B, vivante. Si entre-temps, il faut tirer dans la foule, tirer un peu partout, ça ne leur pose aucun problème. La bataille des cœurs et des esprits, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de remplir le contrat. Donc vous voyez déjà la contradiction qu'il peut y avoir entre cette logique immédiate privée et puis la logique stratégique américaine. Le deuxième effet pervers, qui est lié au premier, c'est que ces gens-là sont, jusqu'à une époque très récente en tout cas, hors du droit. C'est-à-dire qu'ils sont dans une zone grise en matière de droit. Parmi les premières décisions de Paul Bremer, il y a effectivement celle qui interdit finalement toute poursuite par les Irakiens, toute poursuite de citoyens américains par les Irakiens. Et puis ensuite, en matière de droit américain, il y a un flou complet sur l'emploi de ces sociétés. Ce qui fait que, jusqu'à une époque très récente, aucun personnel de ces sociétés n'a jamais été mis en cause, y compris ceux qui, par exemple, étaient dans la prison d'Abu Ghraib, qui faisaient des interrogatoires.
Une deuxième question technique, c'est la bataille de la route, ce que vous appelez la bataille de la route. C'est assez belle connue. En effet, vous expliquez que pour le soutien logistique de toutes les forces, il y avait deux grands courants par la route de logistique, l'un qui est du Koweït à Bagdad et l'autre de la Jordanie à Bagdad. Ça représente la distance à peu près Paris-Marseille. Hein. Bon, et que ça a été un problème puisque ces routes ont été infestées de ce qu'on appelle les IED, les Improved Explosive Devices, c'est-à-dire des mines et engins explosifs, certes rustiques, mais quand même télécommandés, et que finalement, les Américains ont réussi tout de même, sur le plan de la technologie, non peut-être pas à maîtriser, mais quand même à diminuer de beaucoup les pertes sur ces axes et finalement d'assurer la logistique de leurs forces.
Alors cette menace des engins explosifs, c'est finalement la seule percée technologique des rebelles dans ce conflit. Elle provient d'abord d'une ressource en munitions qui est considérable, due essentiellement à la négligence là aussi des débuts de l'occupation, où on a laissé tous les dépôts de l'armée irakienne complètement libres. Des compétences certaines d'ailleurs de tous ces rebelles en matière d'engins explosifs. Et donc on a vu très rapidement se multiplier cette menace qui effectivement, parce que ça fonctionne, c'est très difficilement parable, je dirais. Alors les Américains là aussi se sont lancés dans un grand processus d'adaptation, très volontariste, très coûteux. Il faut quand même savoir que le budget de l'organisation qui est chargée de l'étude et de la lutte contre ces IED est de l'ordre de 4 milliards de dollars par an. C'est absolument faramineux. Mais cela a permis de développer un certain nombre d'innovations techniques, d'abord, par les brouilleurs, donc ce qui permet de couper la liaison qu'il peut y avoir entre les déclencheurs et l'engin explosif, par le blindage. Donc on a développé des engins extrêmement puissants, extrêmement blindés, protégés. Mais très rapidement, on s'est aperçu des limites des innovations techniques et il a fallu combiner avec toute une série d'innovations tactiques, de surveillance, de recherche, de traque, de travail policier, tout simplement. C'est-à-dire que quand un engin explosif est découvert, eh bien, il y a toute une méthodologie de recherche d'indices, d'empreintes, etc., pour remonter les filières.
On retrouve là encore la capacité de réaction, d'adaptation.
Effectivement. Et ça a permis de diminuer, en tout cas, considérablement les effets de la menace, sinon de la réduire elle-même.
J'aimerais vous poser deux dernières questions, parce que le temps passe. Vous connaissez l'Irak, en ce sens que vous avez décrit ce qui s'est passé, et vous connaissez aussi l'Afghanistan, d'où vous venez il n'y a pas tellement longtemps, vous avez passé quelque temps là-bas. Alors, pouvez-vous établir un parallèle entre, d'une part, l'évolution de la situation en Irak telle que vous l'avez décrite, et d'autre part, la situation qui se dessine en Afghanistan telle que vous avez pu le constater sur place, en quelques mots?
Bon, en quelques mots très rapidement, on voit bien que là aussi, la stratégie américaine en Afghanistan est un tournant et que le général Petraeus, qui commande désormais l'ensemble des forces américaines au Moyen-Orient, et le général McChrystal, qui est un de ses hommes, envisage très fortement d'une stratégie très proche de celle qui a fonctionné en Irak, de la stratégie du surge. Donc ces gens-là disent, transformons d'abord notre comportement.
Et alors, est-ce qu'ils ont transformé leur comportement en Afghanistan? Vu de loin, on n'a pas l'impression.
On en est encore assez loin, mais aussi pour des raisons purement concrètes. C'est-à-dire que le pays est plus grand, la guérilla en Irak est concentrée dans quelques villes. Là, on est sur un espace beaucoup plus important. On est obligé de faire avec des moyens qui sont inférieurs en effectif. Il y a 2 à 3 fois moins de sol américain en Afghanistan qu'il y en avait en Irak. D'où l'idée, là aussi, de les renforcer. Mais on fait beaucoup plus appel, par exemple, à la force aérienne, à l'emploi de l'armée aérienne en Afghanistan qu'on ne le faisait en Irak. Là aussi, pour des raisons géographiques et pratiques.
Encore qu'en Irak, l'aviation est quand même intervenue assez fort. Et avec succès, d'ailleurs.
Oui, elle est intervenue avec succès. Mais
Zarqawi a été descendu par des F-16.
Exactement, oui, tout à fait. Non, il y a là aussi un certain nombre d'innovations dans l'emploi de la force aérienne et de la coordination avec le sol, la surface, qui sont tout à fait remarquables. Mais, encore une fois, c'était une guérilla urbaine où l'emploi de la force aérienne, qui se caractérise par sa puissance, avant tout, son ubiquité et sa puissance, était beaucoup plus délicate à employer qu'elle ne l'est en Afghanistan. Un des problèmes, le problème majeur, disons, c'est que statistiquement, il arrive parfois que ces frappes puissantes ratent leur cible et frappent la population, ce qui est très peu arrivé en Irak. Il y a très peu de cas. En revanche, en Afghanistan, ça c'est arrivé rarement, mais à chaque fois, c'est un drame national. Et c'est absolument désastreux pour l'image de la coalition. Mais en même temps, il est très difficile de se passer de ces moyens de feu. Ça suppose, en tout cas, si on veut accepter de s'en passer, de prendre plus de risques et d'aller plus sur le terrain. Bon, finalement, c'est comme ça que la bataille de Bagdad a été gagnée également, en allant sur le terrain, dans les rues, en y restant. Donc, c'est ce qu'on propose, c'est ce que proposent certains militaires américains en Afghanistan. Maintenant, là aussi, tous les choix principaux sont dans la main du président Barack Obama. Il n'est pas dit que cette stratégie de surge afghan, qui a également un coût financier dont on parle assez peu, mais enfin...
Oui, on s'en doute, oui.
Ces Américains dépensent $1 milliard par semaine en Afghanistan.
Par semaine.
S'ils décidaient d'appliquer la stratégie McChrystal, cela leur coûterait l'équivalent du plan de relance de leur économie. Donc il n'est pas évident, par exemple, que le dollar... Il résiste. Donc il y a toute une série d'enjeux politiques, économiques, dont il faut tenir compte.
Dernière question, on revient en Irak, et j'aborde la conclusion de votre livre. Dans votre conclusion, vous avez écrit, je vous cite, « Rien n'est vraiment résolu en Irak, et il n'est pas dit que les soldats américains ne soient pas placés un jour devant les terribles dilemmes qu'a connus l'armée française en Indochine et en Algérie. La deuxième « grande génération », entre guillemets, la deuxième grande génération après celle de la Deuxième Guerre mondiale pourrait aussi bien être une génération maudite. Maudite, je trouve que le terme est extrêmement sévère. Sévère pour les Américains, peut-être sévère aussi pour l'armée française. Mais ma question est la suivante. En cette fin de l'année 2009, puisque vous avez terminé votre livre au début de cette année, est-ce qu'à la fin de cette année de 2009, si vous deviez réécrire votre conclusion, celle-ci serait-elle plus pessimiste, moins pessimiste? Quelle serait-elle?
Là aussi, quel bilan de...
En fonction de ce que vous savez.
Bien sûr. Quel bilan pour cette intervention américaine en Irak? Il faudra quand même rappeler les objectifs stratégiques qui étaient de présenter un modèle, de faire de cet Irak un sorte de modèle pour le Moyen-Orient qui, par effet de domino, aurait entraîné les pays aux alentours. Bon, là, on en est effectivement loin d'être un modèle. Le pays est parcouru de fractures dans tous les sens. Les problèmes ne sont pas franchement résolus. La situation entre le Kurdistan, notamment dans la zone de Kirkouk, entre les Kurdes et les Arabes, c'est une zone de tension permanente.
Enfin, on a l'impression presque d'une guerre civile, parce qu'il y a des attentats quand même.
Il y a un renouveau des attentats. Beaucoup de sunnites, notamment, sont déçus par les évolutions. Donc ceux qui avaient choisi l'alliance américaine, ils s'aperçoivent qu'ils ne voient pas grand-chose venir. On ne fait pas beaucoup de place pour eux dans ce processus. Donc beaucoup reviennent vers des mouvements de rébellion. L'influence iranienne est énorme dans le sud du pays, notamment à Bassora. Bassora elle-même a des volontés très autonomistes. Donc finalement, les Américains, pour l'instant, laissent derrière eux un pays morcelé et très fragile.
C'est-à-dire que la conclusion n'est pas optimiste. Alors, affaire à suivre. Et puis, on attend le deuxième tome de votre livre dans un ou deux ans, en espérant quand même que l'affaire aura évolué dans le bon sens. Merci, mon colonel, de votre témoignage.
Merci, mon général. Thank you.